caught against some mad bugger's wall.
Canyon vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Un plaisir angoissant. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. André et Marie viennent de se marier. À la sortie de la mairie, le père d'André leur dit
« Voici les clés de notre nouvel appartement. Vous habiterez juste à côté de chez moi. »
« Merci, père, » dit André. Marie l'embrasse.
« Vous voulez le visiter ?»«
Oui, » dit Marie.
« Prenons la voiture. »
L'appartement se trouve dans un immeuble près de la gare des Brotteaux. L'immeuble est cossu, l'allée est en marbre. Ils entrent dans l'allée et montent jusqu'au quatrième étage. Le père ouvre la porte de l'appartement de droite. Celui de gauche, c'est le sien.
J'espère que ça vous plaira.
À l'entrée, à gauche, cuisine, deux chambres. En face de l'entrée, salle de bain et WC. Et à droite, une immense living.
Oh, merci, père. Tu es vraiment merveilleux.
Marie lui dit, j'aurais jamais rêvé d'avoir un aussi joli appartement.
Je suis heureux que cela vous plaise.
Deux jours plus tard, ils ont quitté leur petit deux pièces, rue Mercière, pour aménager dans le nouvel appartement. André, jeune homme de 22 ans, est grand, mince, le visage encore juvénile, les cheveux bruns, il travaille à la BNP de la Banque Pardieu. Sa femme, Marie, est grande, un peu forte, le visage rieur, les cheveux coupés courts, bruns. Elle a 25 ans et est professeure de français. Cela fait 2 ans qu'ils se connaissent et se sont rencontrés à un concert rock. André fait depuis l'âge de 15 ans de la musique, les guitaristes avec son ami d'enfance, Louis. Un soir, que Marie est dans sa chambre à corriger les devoirs et qu'André est assis dans le living à lire, le living est presque vide, comme tout l'appartement, l'on sonne à la porte. André va ouvrir. C'est Louis, un jeune homme de son âge, maigre, le visage osseux, la peau très blanche, les yeux qui hypnotisent d'un bleu roi et les cheveux en désordre noir. Il est habillé d'une veste et d'un pantalon noir. « Salut !»«
Bonjour, Louis !»
Et il le conduit au salon. Le fait asseoir sur un des fauteuils et se met en face de lui.
Tu veux peut-être boire quelque chose ?
Non, ça va. Marie crie de sa chambre. Qui est-ce ?
C'est Louis.
Bonjour, Louis.
Bonjour, Marie.
André lui demande. Tu es venu pourquoi ?
Tu as entendu le nouveau Dépêche Mode ?
Oui, c'est pas mal.
On peut faire mieux, tu sais.
Marie entre dans la pièce. Et va s'asseoir à côté d'André. Louis dit,
tu viens, je vais t'apprendre quelque chose que j'ai appris à la guitare.
Marie dit,
non, il ira une autre fois, ce soir il est trop tard.
Elle prend la main d'André et la presse. Lui furieux,
ça va, j'ai compris, C'est à chaque fois pareil depuis que tu es avec elle. Il se lève. Allez, je me tire. Et il quitte l'appartement. André dit, et voilà, il va bouder. Laisse-le bouder. Et en tout cas, ne fais pas le premier pas. Allez, on va se coucher. Deux mois passent et André n'a pas de nouvelles de Louis. Un soir, Marie part passer la soirée chez sa mère et ne rentrera que demain dans la matinée. André, lui, va passer la soirée chez un copain dans sa bande qui habite une maison à Chaponneau. Il a garé sa voiture près de l'entrée de la villa et sonne. C'est son copain qui lui ouvre. Un petit gros à cheveux roux, visage rieur. Il est célibataire. Entre, mon vieux. Et André le mène au salon, où se trouvent déjà une dizaine d'invités. Maurice fait les présentations, puis donne un verre de whisky à André, et chacun s'assoit. Une fille d'une vingtaine d'années, bien pulpeuse, envoûtante, les cheveux longs, noirs. Elle porte une robe noire, courte et serrée. S'assoit à côté de lui. La soirée se passe à boire, manger des amuse-gueules et à raconter des histoires salaces comme s'en rencontrent les célibataires qui veulent faire croire qu'ils ont eu beaucoup d'aventures. André se serait mortellement ennuyé s'il n'avait pas été excité par la fille à côté de lui. Il y a des filles qui sont des purs sexes, qui attirent les hommes instantanément. Elle a vu qu'André la regarde de temps en temps. Elle lui sourit.
Deux ou trois disques.
Quel âge a-t-elle? 30 ans?
25.
C'est pas un peu jeune pour toi?
Le temps passe. Vers la fin de la soirée, André est très excité, elle aussi. André décide de partir. Elle lui demande, vous me raccompagnez? Oui, il dit oui, et ils sortent de la soirée.
C'est sérieux?
Il l'amène vers sa voiture et la fait rentrer. Je vous emmène où? Lyon 7e. Et il démarre. Pendant qu'il roule, il jette un coup d'œil aux jambes de la fille. Elle le voit, lui dit, si vous voulez, on peut garer. On peut se garer dans un endroit tranquille. Il la regarde. Elle lui sourit. Alors, il gare sa voiture dans un chemin de terre. Il se penche vers elle. Elle l'embrasse sur les lèvres. Elle lui caresse ses cheveux. André met sa main sur les cuisses. Puis, soulève les jupes, sa jupe, et met un doigt dans le slip.
Elle se le retire et lui ouvre sa fermeture éclair. Il lui baisse le fauteuil, se déculotte, elle a relevé sa robe, écarte et soulève les jambes. Il se penche vers elle comme il peut et la prend. C'est un volcan, cette fille. Une fois qu'il est fini, il se retire, prend un Kleenex dans la poche de sa veste qui est sur le siège arrière. Il veut lui en donner un. Non, pas la peine. Elle se rhabille. Lui aussi s'est rhabillé. Elle prend dans son sac du rouge à lèvres et se refait les lèvres. Elle sourit et lui dit, « Tu as fait 5 000 ?»«
Quoi ?
Si tu ne veux pas ou si tu me fais un chèque en bois, je te dénonce pour viol. Je sais qui tu es, tu travailles à BNP. Qui prouve que je vous ai violé ? J'ai ce qu'il faut. » Elle lui montre le bas-ventre. André rougit. 5 000 francs. Marie va s'en rendre compte et poser des questions. Et s'il ne la paye pas, elle va le dénoncer. Elle aura Dieu sa vie bien tranquille. Il est coincé, coincé. Il sourit, il a chaud et défait sa cravate. Puis la regarde. Elle dit, à quoi tu penses ? Il quitte sa cravate et d'un coup brusque, il la lui met au cou. En se penchant sur elle, elle n'a pas eu le temps de se débattre. Serre. Elle essaye avec ses mains de retirer la cravate, mais ne peut pas. Au bout d'un moment, elle ne réagit plus. Il lâche, retire la cravate. Le cou est bleu, la langue pendante, les yeux grands ouverts. Il souffle. Il sort de voiture. Va ouvrir l'autre porte. Le corps gît à terre. Tu as besoin d'un coup de main ? Il se retourne et voit derrière lui, Louis. Qu'est-ce qui t'arrive ? André baisse la tête et lui dit « J'ai tué et voulait me faire chanter, tu comprends ?»« Oui, je vais t'aider à mettre le corps un peu plus loin. Prends-le par les pieds. Moi, je le prends par les bras. » Et il jette le corps dans un fossé un peu plus loin. M'accuser de viol, j'allais tout perdre. C'est pas de ma faute, Louis lui dit. Oui, je comprends. Il faut que je rentre, autrement ma mère va s'inquiéter. J'étais sorti parce que j'arrivais pas à trouver le sommeil. Allez, au revoir. Je remercie Louis. Et Louis s'éloigne. André prend la voiture et démarre. Arrivé chez lui, effondré, il est allé se coucher. lendemain matin, il retrouve sa femme à la cuisine qui prépare le petit déjeuner. Elle lui demande « Bonjour chérie, tu as passé une bonne nuit ?»«
Oui. »
Et il s'assoit à table. Nerveux, fatigué d'avoir mal dormi. « Mes parents te passent le bonjour. J'ai passé une soirée excellente. Ils avaient une invitée, un écrivain hongrois, qui nous a lu des extraits de son œuvre. C'est ma sœur qu'il traduisait. Et toi, chérie ?
Moi, soirée des crabes, des gens sans intérêt. »
Dans l'après-midi, l'on sonne. André va ouvrir. Il pâlit, c'est Louis. Louis lui fait un clin d'œil et lui met la main sur le bras en lui disant « Heureux de te revoir.
Oui, entre. »
Se dirige pour aller au salon. André le suit. Il y retrouve Marie en train de coudre. Bonjour Marie, bonjour Louis. Et il s'assoit.
Ah, tiens. « Je boirai bien un petit café. »
André dit à sa femme, « Sers-lui un café. » Elle se lève furieuse et va préparer le café à la cuisine.
« Tu peux me prêter 200 francs ?»«
Bien sûr, Louis. »
André sort de sa poche un porte-monnaie et lui donne 2 billets de 100.
« Merci. Tu as ta guitare ?
Oui.
Tu me la prêteras. J'ai quelque chose à te faire entendre. »
Marie revient avec le café.
André arrive avec sa guitare qu'il donne à Louis.
Il reste toute la journée à jouer, ce qui énerve Marie et lui donne mal à la tête. Reste pour le repas du soir. Ensuite, la guitare a recommencé, puis il est parti vers les 23 heures. Marie est furieuse.
Ton copain, tu te rends compte ?
Il s'est invité lui-même, demander le café, dîner,
jouer, en donner de la migraine. Je n'en peux plus et je ne veux plus le revoir.
Calme-toi, il vit seul, il n'a que moi.
Tu t'es marié à lui ou à moi ?
Il l'embrasse.
Ne sois pas jalouse, t'es un brave type dans le fond.
Bien, mais dis-lui d'être un peu plus sociable et poli.
D'accord.
Malheureusement, les choses ne s'arrangent pas. Il vient très souvent chez eux, à n'importe quelle heure et reste des heures. Marie a beau faire les gros yeux. Après son départ, faire des scènes à son mari. Rien n'y fait, il revient toujours et André ne lui dit rien. Quelquefois, il lui demande des petits services, un peu d'argent, des outils à lui prêter et même sa voiture. Ce qui exaspère encore plus Marie, c'est qu'il se met à permet des familiarités avec André. Le tape sur les cuisses, lui caresse le dos ou le cou, l'embrasse et même le foie lui a donné une tape sur les fesses. Marie lui dit « Je ne comprends pas cette familiarité qu'il a avec toi. » André hausse ses épaules. « Nous connaissons depuis l'enfance. » Un soir, avant de partir, Louis dit « À demain. » Alain lui dit « Non, demain nous partons en vacances un mois. Oh, vous allez où ? Du côté de Bordeaux, mes parents nous prêtent leur villa. Ça doit être beau Bordeaux, j'aimerais pouvoir y aller moi aussi. Viens avec nous alors. Vous partez quand ? Demain à 9h. Bien, j'y serai. À demain. » Et il part. Sa femme les a regardées furieuses. Pourquoi lui as-tu dit que nous partions ? Ce n'est pas grave. Comment ça, pas grave ? Tu l'invites avec nous et ce n'est rien. Tu ne vas pas me faire une scène, non ? Je l'invite dans ma maison, dans la maison de mes parents et c'est tout. Bien, si tu le prends comme ça, il s'approche d'elle. Elle se retire. Ne sois pas fâché, il ne nous gênera pas. Et le lendemain matin, ils sont partis tous les trois. Près de Bordeaux, les parents d'Alain ont une magnifique villa, toute blanche, en hauteur, un peu en retrait des autres bâtiments. La villa est du siècle dernier et les meubles sont Louis XV. Derrière se trouvent les dépendances et les anciennes écuries. Devant, le parc et la terrasse. Les domestiques sont en vacances. Ils auront la maison pour eux. Ils ont donné une chambre à Louis à côté de la leur. Marie fait toujours la tête et en veut à mort à André. Lorsqu'ils sont dans leur chambre, à défaire leurs valises, une fois qu'ils ont fini, « Tu m'en veux toujours ?»« Oui, pourquoi tu l'as invité ?»« C'est un brave garçon, il vit seul et j'ai eu pitié de lui. »« Mais tu n'as pas pitié de moi ?» Il la prend dans ses bras. « Idiote, ne sois pas jalouse, c'est toi que j'aime. » Ensuite, ils vont
au salon pour retrouver Louis. Louis dit, « Tu viens, André, j'ai vu un étang et j'aimerais le voir. » André regarde sa femme. Elle leur dit, « Allez-y, pendant ce temps, je préparerai le repas. » Et ils sortent. André, lorsqu'il est seul avec Louis, est gêné, car il est peur qu'il lui parle de la fille. Mais non, Louis fait comme si rien ne s'était passé. André se demande si c'est par amitié pour Louis, ou s'il se tait, ou si c'est pour le faire marcher. Il se dit que si Louis ne l'avait pas vu, il serait tranquille. Car l'affaire n'a pas fait beaucoup de bruit. On a simplement écrit dans le Progrès qu'une pute a été retrouvée morte, étranglée, sans doute par un de ses clients. Le ciel est bleu et il fait chaud en cette fin de journée. Louis l'a pris à la taille. André n'aime pas ses familiarités, mais il n'ose rien dire. Et puis, l'on est à la campagne, personne ne les voit. Ils arrivent devant l'étang, sont éblouis par cette eau dormante baignée de soleil. Tout à coup, Louis dit, « On se baigne ?»« Oui. » Il se déshabille et entre dans l'eau, qui les surprend par sa douceur. Louis s'amuse à le tirer par les jambes. Il se bat en riant. Puis, Louis plonge et lui enlève son slip, qui laisse aller dans l'eau. « Mon slip !» André essaie de le rattraper. Lui l'en empêche. Ils se battent. Épuisés, sortent de l'eau. Louis le regarde et lui dit, « Tu n'as pas honte de te montrer ainsi? On peut te voir. Couche-toi à plat ventre. Je vais te donner une correction pour te montrer ainsi. » Il se couche dans l'herbe. Louis prend une branche d'herbe flexible et lui frappe les fesses qui deviennent très vite rouges. À chaque coup, André souffle mais se tait. Louis prend un malin plaisir à le taper. Il voit la gorge qui sépare ses fesses avec une raie de poils noirs. Il voit un peu des couilles, cela l'excite. Surtout qu'André écarte les jambes et montre sa verge contre terre. Une verge grande et blanche. Au bout d'un moment, lui en a assez. Jette la branche. Lève-toi. C'est ce qu'il fait. De face, il est tout rouge et des boules d'herbe se sont collées à sa peau. Louis l'attrape à la nuque, lui tire les cheveux, enfonce sa tête dans son cou, le lui embrasse. Va dans l'eau te nettoyer, habille-toi, nous rentrons. Le matin, ils font les courses tous les trois, préparent le repas. L'après-midi, ils vont se promener dans les environs et vont à la plage. Le soir, ils écoutent des disques ou lisent. Marie s'est faite une raison et accepte. Lorsqu'André et Louis sont seuls, Louis se comporte toujours d'une façon un peu sadique, pervers. Ceci inquiète André et en même temps, il en ressent un plaisir étrange. Au bout d'un moment, ses douleurs deviennent des plaisirs. Un jour, alors que Louis l'avait poussé à l'intérieur des écuries
qui l'avait forcé à se déshabiller, couché à terre et s'était mis à le fouetter. Puis, une fois qu'il avait fouetté, il avait léché son corps meurtri. Il avait failli jouir. Il avait failli jouir lorsque la langue de Louis avait été jusqu'en haut des cuisses, mais s'était retenu avant la honte. Louis le frappe en faisant attention à ce que ça ne laisse pas de traces. André lui en est reconnaissant. Louis prend de plus en plus de plaisir à ses jeux et force de plus en plus souvent André à aller avec lui. Marie se sent de plus en plus seule. La nuit, dans leur lit, André a de plus en plus de difficultés à faire son devoir conjugal. Son corps s'est habitué au jeu de Louis. Sa femme ne comprend pas. « Mais qu'as-tu ? Tu es bizarre. Je te sens loin de moi. J'ai l'impression que tu n'es plus le même, que tu n'as plus envie de moi. Je demande pardon. J'ai peut-être un peu de faiblesse. » Elle se met de côté et lui dit « Non, ce n'est pas cela. Ton corps ne réagit pas comme avant. Tu es un autre. Ce n'est pas de la faiblesse à 22 ans. On n'a pas de faiblesse. » Il se tourne vers elle et lui met la main sur ses cuisses. « Non, laisse-moi. » André a conscience qu'il a changé et il en a peur, car il sait qu'il devient la chose à Louis et que son corps en trouve malgré lui du plaisir. Il aimerait arrêter cela, casser la gueule à Louis. En temps normal, il l'aurait déjà fait. Mais là, il n'ose pas, car il a peur de Louis, que Louis le dénonce. Maintenant, il connaît Louis à fond et sait que rien ne peut l'arrêter, même pas d'être emprisonné pour complicité. Louis se moque de tout, n'importe rien, fait ce qu'il aime, veut, avec passion, et il veut André, il l'a. Ils se voient de plus en plus souvent, et André, sans sa peau, désirait de plus en plus les jeux de Louis. Louis lui mordit les couilles, juste ce qu'il faut à la limite du plaisir et de la douleur. Là où la peau ne sait pas si elle doit avoir de la souffrance ou du plaisir. André attend, cherche Louis pour qu'il lui dise de venir dans la grange. Ses yeux le cherchent, l'appellent. Louis fait durer le plaisir, fait celui qui ne voit pas et attend son heure pour appeler. Marie suit leur manège et ne comprend pas, mais se rend compte qu'elle est exclue. Elle pleure en cachette. Un jour, n'en pouvant plus, elle décide de partir. André la trouve dans sa chambre en train de faire une valise. Il s'approche d'elle. Qu'est-ce que tu fais ? Je pars. Pourquoi ? Parce que j'en ai assez d'être entre vous. Je veux vivre et être aimé. Ne pars pas, Marie. Non, je m'en vais. Elle ferme sa valise. J'ai besoin de toi. Oh, si peu. Et elle quitte la pièce. Il la suit désemparé. Car il tient à elle malgré tout. Ne pars pas, je t'en supplie. Elle descend les escaliers. Non, Marie. Arrivée vers la porte d'entrée, elle se retourne. Elle a un espoir et dit « Viens avec moi !» Et elle ouvre la porte d'entrée. Il ouvre la fenêtre qui se trouve aux escaliers. Elle est entrée dans la voiture décapotable blanche. Il lui crie « Marie !» Elle lève la tête. Une main se pose sur son bras. Il voit contre le mur Louis, qui lui fait non de la tête. Elle lui crie « Alors, tu viens ?»« Marie, reste !» Les larmes aux yeux, elle met en route la voiture. Qui est parti à vive allure. André est effondré. Louis lui renverse sa tête en le prenant par les cheveux et la penche du côté droit et lui fait un suçon dans le cou. Puis le retourne face à lui, lui arrache sa chemise et lui mordit sa poitrine en descendant, puis lui descend son pantalon. André sent avec effroi que sa peau ne lui obéit plus. En se réveillant, André ne trouve pas Louis dans sa chambre. Une peur panique le prend. Il est comme un drogué en manque ou simplement l'alcoolique. Il fait toute la maison en l'appelant.
Oui.
Louis, où es-tu? Où es-tu, Louis? Louis frôle les murs et le suit sans bruit. Après la maison, il a même cherché dans les anciennes écuries. Il se met à crier dans la cour. Louis! De désespoir, il se jette sur le sol et pleure à chaudes larmes. Tout à coup, Louis le soulève par les cheveux, le retourne et lui dit « C'est une preuve d'amour, ça. » André baisse les yeux et lui dit « Où étais-tu ? » ?»« Près de toi, mais tu ne m'as pas vu. Salaud !» André veut se soulever. Louis le maintient à terre en lui tirant les cheveux. « Tu es à moi, mon petit, à personne d'autre. » André ne bouge plus. Louis lui baisse les lèvres. Ils sont comme deux fauves qui vivent dans leur tanière, ne sortent pas juste pour faire les courses, passent leur temps à se courir après, se battre et s'aimer, car l'amour et la haine vont ensemble comme la douleur et le plaisir. La maison et le parc sont devenus de vrais champs de bataille, comme durant une guerre. Tout se casse, se délabre et en même temps tout rentre dans l'ordre des origines. Le jardin envahit de mauvaises herbes, la maison prend des fissures, de la poussière et a plein de toiles d'araignée. Les meubles, les objets se cassent car dans leur jeu où les gestes se veulent libres, tout se brise devant eux. Entrer à l'impression de vivre un cauchemar féerique. Au bout du temps, du monde. Chaque jour, Louis joue avec sa peau, ses nerfs, son sang, son sperme. Avec lui, André meurt et renaît chaque jour. Car ses jeux sont de plus en plus sadiques. Mais plus Louis n'a plus de retenue. Avec un couteau, il fait des petites entailles sur tout le corps d'André. Puis, lui suce le sang et le sexe jusqu'à ce que le sperme arrive. Le corps d'André sait qu'après la douleur vient le plaisir. C'est pour cela que sa peau appelle la douleur pour jouir. Louis court avec un fouet qu'il a trouvé dans les écuries. Il lui court après dans toute la maison. Le fouet claque et s'il n'attire pas André, il attire un objet. Henri rit de plaisir, se sent vivre à fond. Leur jeu se termine le soir lorsqu'ils sont épuisés. Tous deux assis à terre, ils mangent des fruits et se taisent. Les vêtements tachés, collés par la sueur, déchirés. Ils ne se parlent plus, leur corps parle pour eux. Le visage noirci, bronzé, les cheveux en désordre, ils sont tous deux comme deux fauves. La nuit, ils couchent chacun dans leur tanière. Leur corps ne se cherche plus, trop épuisé. Un matin, Louis court après André dans le parc. Il a plu toute la nuit. André court très vite. Tout à coup, oh ! Il se retourne. C'est lui qui vient de se faire un croche-pied avec une racine d'arbre et est tombé. Il a mal à sa jambe. André va vers lui. « Qu'est-ce que tu as ?»«
J'ai mal à ma jambe. Aide-moi à me relever. »
André le soulève et le maintient à l'épaule et le ramène à la villa. « Tu souffres beaucoup ?»«
Oui. »
Tout à coup, André a une lueur. Au lieu de le mener, Louis, dans la maison, il le mène vers les écuries.
« Pourquoi me mènes-tu là ici ?»
André ne répond pas. Louis essaye de se dégager de son emprise, mais ne peut. André ouvre la porte d'une écurie.
Mais pourquoi me mènes-tu là ?
Il dépose Louis sur de la paille au fond de l'écurie. Louis essaye de se relever, mais il a trop mal.
« Pourquoi m'as-tu mené là ?»
André sort de sa poche un briquet qu'il met en marche et jette dans la paille qui s'enflamme.
Louis panique, veut se lever, mais n'a pas d'appui. Il essaye de se déplacer ventre à terre, mais il ne peut avec sa jambe. « Arrête ce petit jeu-là, je t'en supplie, ce n'est pas drôle !»
Les flammes arrivent vers lui. Il fait un ultime effort pour s'en sortir, en essayant de marcher ventre à terre. André lui donne un couplet dans la figure, ce qui le fait basculer
à la renverse est tombé dans la paille en flamme. Lui pousse un gémissement. La tête est tombée dans les flammes. Un quart d'heure plus tard, il ne bouge plus. On n'entend que le crépitement du feu. On n'entend que le crépitement du feu. Entrer et rester le temps qu'il a pu, puis a éteint le feu avec des seaux d'eau. Il y a tout juste eu l'intérieur de l'écurie qui a été détruite. On voit le corps brûlé de lui qui n'a pas été calciné. Deux heures plus tard, André est assis dans sa chambre. Il ne bouge pas, il n'ose pas sortir. Il est resté un jour comme ça, sans bouger. Ce n'est pas la peur de son crime, mais la peur du vide, d'être seul, sans cri, sans course, sans souffrance, sans plaisir. Le vide. Puis, il s'est levé pour aller à la fenêtre. Le ciel est bleu, sans nuages. J'étais tué parce que pendant une seconde, j'ai eu une vision, un appel, qui me disait qu'il fallait que mon corps réapprenne à m'obéir, qu'il ne soit plus drogué, névrosé par la douleur, le plaisir que tu lui donnais. Je voulais qu'il redevienne libre, plus drogué par toi. Et maintenant, il faut que j'apprenne à vivre sans ma drogue, sans toi, que je redevienne moi. Cela va être dur, tu me manques déjà, tout mon être t'appelle. Et ma chair souffre de ne plus t'avoir. Vais-je y arriver? Il passe deux jours à courir comme un fou, à croire qu'on le suit, à sursauter de peur et de plaisir. Sa chair le fait souffrir à mort du manque de douleur et de plaisir. Il s'est mordu les doigts, s'est flagellé lui-même, fait jouir seul pour calmer son manque. Il est aux aguets, à attendre, à épier. Il s'est cogné contre les murs. Puis, ça a été le silence. Et, une nuit, tout d'un coup, croyant entendre un bruit dehors, il court, se jeter à la fenêtre. Il s'est fracassé le crâne. Ça a mis fin à son silence, à ce silence qui était devenu sa vie. Radio Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre. Un plaisir angoissant. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.